Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, un notable de la province de l'Équateur alerte sur les épidémies de monkeypox et de rougeole dans le territoire de Bolomba. Nesty Bonina, vous allez l'entendre, cite le médecin directeur de l'hôpital général de Bolomba et parle de plus de 2500 cas de contamination déjà enregistrés. Le candidat déclaré à la présidentielle de décembre 2023, Matata Tamponyo, a dévoilé son projet de société hier mercredi lors d'une conférence de presse à Kindu dans le Maniema. Ambitieux programme d'un projet quinquennal de 90 milliards de dollars, il est intitulé « Renouer avec notre destin de grandeur ». L'invité de ce journal est le directeur général du bureau central de coordination BCECO. Au terme de sa mission au Kasaï oriental, Jean Mabi Moulumba s'est rendu compte de l'état d'avancement des travaux de construction des infrastructures réalisées dans le cadre du PDL 145 territoires financés par son organisation. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les épidémies de monkeypox et de rougeole font rage dans les territoires de Bolomba, en province de l'Équateur. C'est Nesty Bonina, un notable de cette région, qui tire la sonnette d'alarme. Il affirme que selon le médecin directeur de l'hôpital de Bolomba, plus de 2500 cas de contamination sont déjà enregistrés. Par ailleurs, il appelle les gouvernements provincial, national et leurs partenaires d'intervenir d'urgence, car les médicaments et une bonne prise en charge font défaut. On écoute Nesty Bonina au micro dans les Hirung.
Nous constatons dans notre territoire de Bolomba, dans la province de l'Équateur, qu'il y a résurgence de l'épidémie de monkeypox et de rougeole. Et ces épidémies sont en train de faire ravage dans notre territoire. C'est pourquoi nous venons par votre canal lancer une alerte aux autorités tant nationales que provinciales de prendre les dispositions idoines afin de venir en aide à la population de Bolomba qui risque d'être décimée par ces deux épidémies qui font rage. En cet instant où nous vous parlons, nous avons pris langue avec le médecin directeur du centre de santé de Bolomba Centre qui nous a informé qu'ils enregistrent déjà plus de 2000 cas de contamination. Et par manque de matériel et d'outils de traitement, les personnels soignants est aussi contaminé à son tour pour éviter ces cycles de contamination qui risquent d'être non contrôlés. Nous en appelons à l'autorité compétente de se saisir de ces dossiers afin d'apporter une riposte conséquente et limiter les dégâts.
Sud Kivu, à Bukavu, plusieurs policiers ont été déployés dans la journée d'hier mercredi à la place communément appelée Nyawira. Selon le chef de la police nationale congolaise Sud Kivu, il s'agissait d'une opération d'assainissement pour lutter contre les marchés pirates aux alentours de ce marché. C'est là, car les marchandises étalées le long de la route ainsi que les mauvais stationnements aux abords du marché de Nyawira sont à la base des embouteillages et exposent les citoyens à des accidents. Les explications du nouveau commissaire provincial de la police au Sud Kivu, Roger Issio, dans cet extrait que nous propose Cynthia Bachezina Bizana.
Nous avons prévu l'assainissement de l'espace situé aux environs du marché de Nyawira. Alors il fallait assainir l'espace pour réguler la circulation et assainir l'endroit. Et nous avons entrepris cette opération pour mettre définitivement fin à l'occupation irrégulière de cet espace par des marchands pirates. Alors tout ce que nous pouvons demander à la population de ne plus revenir et s'il y a des réclamations à faire par rapport à leur délocalisation, ils n'ont qu'à voir les maires de la ville pour leur attribuer un autre endroit qui est de rester dans un endroit qui non seulement provoque l'insalubrité et qui y a risque aussi, parfois il y a mort d'homme par des véhicules qui roulent à tous sens. Par rapport à ça, on va voir avec la mairie et la Commission nationale de prévention routière qu'est-ce qu'il faudrait exactement pour éviter les stationnements à n'importe quel endroit des automobilistes et des transporteurs en commun.
Au Nord Kivu, la coordination provinciale de la société civile appelle le gouvernement à promulguer et à vulgariser au plus vite la loi portant institution de la réserve armée de la défense en RDC, votée au Parlement en mai dernier. Dans une lettre de plaidoyer déposée hier mercredi au gouverneur du Nord Kivu, Cette structure estime que cela pourrait réglementer les phénomènes Ouazalendo, devenu un problème sécuritaire en province. Le président de la société civile estime que cela pourrait être salutaire pour la population civile, surtout en milieu rural où opèrent nombreux groupes armés. John Banyene l'a dit au micro de Bernard Nyangui.
Après un état des lieux, nous nous sommes dit qu'il fallait réagir en tant que la sentinelle de la population, parce qu'actuellement, la population, elle est en train de souffrir avec les Ouazalendo qui ne sont pas encadrés et qui se voient encore aller derrière la population pour les servir. À un moment donné, nous avons suivi qu'il y a une loi sur la réserve de l'armée qui a été votée à l'Assemblée nationale et au Sénat et promulguée par les chefs de l'État, mais qui n'a jamais été publié dans les journaux officiels. Il serait bien que le gouvernement puisse publier cette loi. Ça va nous fixer parce que actuellement, tout le monde s'appelle maintenant Ouazalendo. Même les bandits profitent que le gouvernement doit vraiment encadrer techniquement, politiquement et idéologiquement les Ouazalendo qui sont les patriotes, parce que notre constitution le dit très bien que quand le pays est agressé ou le pays est en danger, tout citoyen est obligé de répondre contre cette menace.
Rappelons qu'à la suite des multiples plaintes de la population, le commandant de la 34e région militaire, le général-major Mpezo Mbele Bruno, avait demandé devant la presse à tous les prétendus Ouazalendo de s'identifier, chacun par son groupe armé d'appartenance. Province du Tanganyika poursuit ce jeudi dans les territoires de Moba de la campagne d'enregistrement gratuit de naissance à l'état civil. Cette campagne est organisée par la division provinciale de l'intérieur avec l'appui financier de l'UNICEF. Le point avec Ponle Munanga.
Le lancement officiel de cette campagne a eu lieu lundi dernier au village Karonja, groupement Mazondé dans la chefferie Kansabala, territoire de Moba. Pour l'administrateur du territoire, l'enregistrement des enfants à l'état civil est très important. Il permet de connaître le nombre exact de la population. Victor Kanfoua demande aux parents de ne pas négliger l'enregistrement de leurs enfants à l'état civil. D'après lui, chaque enfant a droit à une identité. Il doit avoir un nom et jouir de ses droits civiques. Le chef de service à la division de l'intérieur à Moba, en charge d'enregistrement des enfants, rappelle aux parents que dépassé les 90 jours, la procédure pour enregistrer l'enfant devient compliquée. Kaloume Kabangé. Dépasser les 90 jours, pour enregistrer l'enfant, il faut se rendre au tribunal. Il faut payer et déclarer l'enfant. C'est là qu'on va donner l'autorisation à l'état civil pour enregistrer l'enfant. Toutes ces procédures sont compliquées. Après avoir donné naissance, je demande aux parents d'aller immédiatement avec l'enfant au bureau de l'état civil. Signalons que cette campagne va durer 7 jours. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Renouer avec notre destin de grandeur, c'est l'intitulé du programme de société de Mata Tampogno, candidat déclaré à la présidentielle de décembre 2023. Ce projet a été présenté à la presse hier mercredi à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Pour le président du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, il s'agit d'un programme ambitieux qui vise notamment à réformer et à moderniser l'État afin de le rendre compétitif, efficace et efficient avec un budget quinquennal de 90,9 milliards de dollars américains. On écoute Mata Tampogno au micro de Florence Kizalunga.
Bon, écoutez, c'est un programme de 90 milliards de dollars américains pour 5 ans, avec un budget annuel de près de 18 milliards de dollars et avec un PIB qui permettrait de faire pratiquement doubler le PIB par habitant, qui atteindrait le niveau des 1000 dollars par habitant, ce qui permettrait à la RDC de joindre la classe des économies à revenus intermédiaires. Et nous avons aussi remonter les taux de pression fiscale. Les recettes fiscales devraient doubler au cours des 5 ans. Et le programme en lui-même est structuré en 4 blocs principaux. Le premier bloc, c'est le bloc de la paix et de la sécurité. Deuxième programme prioritaire, c'est de pouvoir relancer les infrastructures dans le pays. Et le troisième programme prioritaire, c'est lancer le processus d'industrialisation. Parce que le pays s'est désindustrialisé. Et enfin, nous comptons réformer l'État. L'administration public, c'est la colonne vertébrale de toute action gouvernementale dans un pays. Et si vous n'avez pas une bonne administration, vous ne pouvez rien faire.
À Bandundouville, chef-lieu de la province du Kwilu, le secrétaire exécutif provincial de la CENI invite les partis et regroupements politiques à capitaliser le temps requis pour déposer à temps les dossiers de leurs candidats députés provinciaux et conseillers municipaux. Jean-Robert Mouyens a fait cet appel au cours d'une réunion de cadre de concertation organisée hier mercredi entre la CENI et ces derniers en prélude de l'ouverture des BRTC ce jeudi. Jean-Robert Mouyens est au micro d'Irène Boma.
Comme je l'ai dit dans mon discours de bienvenue, nous avons remercié d'abord tous les partis et regroupements politiques qui sont venus envahir nos bureaux pour déposer massivement les candidatures. Mais ces candidatures sont venues presque à la dernière minute, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc c'est important que, comme c'est l'ouverture du BRTC, nous voulons déjà que dès les trois, que les gens viennent déjà pour les retraits des formulaires. Mais le constat souvent que nous faisons est que vous pouvez faire 2 semaines, il n'y a pas de retrait des formulaires. Les gens vont venir retirer le formulaire la dernière semaine. Quand est-ce que vous aurez le temps de remplir ces formulaires? C'est ce qui est même à la base des formulaires souvent mal remplis, qui nous donnent vraiment du fil à retordre. Mais si ces formulaires sont retirés dès le début, on peut vous encadrer comment bien les remplir pour que ces formulaires soient bien déposés. Et à ne pas oublier que le dépôt de candidature n'est pas gratuit. Vous devez payer les frais de cautionnement. Vous ne pouvez pas payer l'argent et que votre liste tombe parce qu'il y a des éléments d'irrécevabilité qui ont été glissés par l'ignorance ou par l'inattention dans votre dossier. Et c'est de l'argent qui part. Et surtout que les frais de cautionnement ne sont pas remboursables, ces frais-là.
Et signalons que pour la députation provinciale, la province du Kwilu compte 43 sièges répartis dans 7 circonscriptions électorales, dont les villes de Bandundu et Kikwit, ainsi que les 5 territoires. En bref, Julie Kalenga a été notifiée pour assumer l'intérim à la tête de la province du Kasaï oriental jusqu'à l'organisation prochaine des élections du gouverneur de province. Elle est donc autorisée d'assurer la gestion des affaires courantes. Cette notification coïncide avec la réouverture du gouvernorat de province bloqué depuis lundi dernier. Dans un télégramme officiel, le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipé, dit avoir pris acte des résolutions portant respectivement la mise en accusation du gouverneur de province, Patrick Kabeya. Cette décision dissipe des malentendus entre l'Assemblée provinciale et le gouverneur Patrick Kabeya. Rappelons que depuis sa mise en accusation, bientôt une semaine, le gouverneur Patrick Mathias Kabeya n'a jamais accepté de démissionner de son poste. Et puis, le 9e jeu de la francophonie attire des foules sur tous les sites. Les jeunes filles et garçons y viennent poursuivre les activités tant sportives que culturelles. Ainsi, les ONG en profitent pour sensibiliser les jeunes sur la sexualité responsable. Vanessa Kongolo a rencontré un groupe de jeunes qui prennent part à une séance de sensibilisation sur le site du stade Tata Raphaël. Voici son reportage.
Un groupe de jeunes filles et garçons, tous calmes, suivant avec attention les explications sur la sexualité responsable. Coco Kalongo, la vingtaine, nous parle de ce qu'il a retenu.
On parlait souvent pour les cycles des femmes, comment ils peuvent utiliser les préservatifs. Non, ce que j'avais besoin pour moi, surtout, c'est le Mayakawana. J'avais besoin de ça pour donner à ma petite amie.
Les ONG profitent de l'espace qu'offre le jeu de la francophonie pour parler aux jeunes. Maria Mazeya, distributrice à base communautaire du centre Koulibaly Sidik de l'Unikine.
Nous sensibilisons les jeunes en fait pour mener une sexualité responsable, pour éviter les IST, le VIH/SIDA, les grossesses non désirées.
Tout ne s'arrête pas à la sensibilisation. Les ONG distribuent aussi les kits. Mais de quoi s'agit-il? Maria Mazeya explique.
Chez les femmes, nous donnons la pilule de 28 jours et les colliers du cycle également. Et chez les hommes, on donne des préservatifs masculins.
Selon l'OMS, les jeunes sexuellement actifs sont exposés au risque des infections sexuellement transmissibles.
Restons dans ce chapitre des Jeux de la francophonie avec la RDC qui à ce jour compte 19 médailles. Plus de précisions avec Merveille Hassani.
Jamais une journée n'a été aussi prolifique en médailles aux Jeux de la francophonie pour la RDC que celle de mercredi 10 août 2023 où elle a gagné 5 nouvelles médailles. Ce sont les léopards en danse hip-hop qui ont arraché la médaille d'or devant la ride concurrence sénégalaise. Toujours dans ses volets culturels, Dan Bosembo dans le concours conte et conteur a remporté la médaille de bronze. C'est en sport où les autres médailles du jour ont été glanées. En athlétisme avec 2 médailles d'argent au lancer. Au lancer de disque d'âme, Yelena Mokako Sala et au lancer de Javelo homme avec Grégoire Choukourou Mikekemo. La dernière médaille du jour, celle de bronze, est remportée en judo, messieurs, catégorie de moins de 60 km par Arnold Kisoka Kiamfumu. À ce jour, la RDC compte 19 médailles, un chiffre 6 fois supérieur à celui de la Côte d'Ivoire en 2017. Quatrième au tableau de médailles, avec 8 médailles de bronze, 7 d'argent et 4 d'or. C'est le Maroc qui mène la barque, suivi de la Roumanie et du Cameroun.
Actualité internationale.
Inquiétude occidentale avant les manifestations pour l'anniversaire de l'indépendance jeudi au Niger. Ces manifestations ont poussé la France à demander de garantir la sécurité des ambassades étrangères une semaine après le coup d'État dans ce pays. Côte d'Ivoire, le doyen de vice-président du PDCI va assurer l'intérim. Au lendemain du décès de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié, le président de la République de la Côte d'Ivoire a décrété un deuil national de 10 jours. De son côté, le PDCI a une nouvelle fois réuni ses cadres pour évoquer l'avenir du parti et l'organisation des funérailles de son ancien leader.
L'invité.
L'invité de ce journal est le directeur général du Bureau central de coordination, BCECO. Au terme de sa mission au Kasaï oriental, Jean-Mabi Moulumba s'est rendu compte de l'état d'avancement des travaux de construction des infrastructures réalisés dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, financé par son organisation. Jean-Mabi Moulumba, directeur général de BCECO, s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, monsieur Jean-Mabi Moulumba. Vous êtes en mission au Kasaï oriental. Quel est le but de votre présence ici?
Je suis en mission dans la province Kasaï oriental, spécialement en Mbujimayi, dans le cadre de la supervision des travaux de construction des ouvrages exécutés dans le cadre du PDL 145 territoire. Comme vous le savez, la province du Kasaï oriental fait partie des provinces pour lesquelles j'ai la charge d'exécuter ces travaux à travers ces 5 territoires. Ils sont Miabi, Patapata, Katanda, Chilenge et Kabeakamwa.
Vous avez visité les travaux de construction des infrastructures. À quel taux ces travaux sont-ils exécutés?
Je vais d'abord faire la part des choses dans la mesure où les travaux ont commencé en 2 temps. Dans un premier temps, j'avais confié 313 infrastructures aux ALE, agences locales d'exécution, qui sont essentiellement des ONG. Ces agences se sont vues confier 313 infrastructures, dont 189 écoles et 124 centres de santé. La plupart avaient démarré au mois de septembre pour une durée de 6 mois, mais comme vous savez, entre le mois de février et mars, pendant la saison de fortes pluies, la ville ou la province s'était retrouvée enclavée. Il y avait des difficultés pour acheminer les matériaux à des constructions. C'est ainsi que certains chantiers avaient pris un peu du retard. Nous avons fait le tour avec vous. La plupart des chantiers que nous avons vus, ce sont des chantiers des ALE qui sont, certains nous ont déjà réceptionnés, d'autres sont en cours de réception. Donc je veux dire qu'au niveau de la province du Kasaï oriental, pour ce qui concerne les ouvrages confiés aux ALE, nous sommes plus ou moins à 90% d'exécution. Alors, les PME ont démarré vers le mois d'avril et mai. D'autres sont déployés même au mois de juin pour les mêmes raisons, à cause d'accessibilité. Mais avec les PME, vous avez vu la qualité du travail qui est fait, notamment à Kabeakamwa, un peu partout dans les territoires où nous sommes passés. Les PME sont à 30-40%. Pourquoi 30-40%? Parce que là, il faut inclure aussi les équipements.
Pour les ouvrages qui sont déjà finis, à quand leur réception officielle?
Nous attendons le maître d'ouvrage. C'est au maître d'ouvrage de venir les réceptionner provisoirement. Parce qu'en fait, les réceptions se font en 3 étapes. Nous procédons d'abord par la réception technique, où nos ingénieurs qui sont sur chantier font le point avec les entreprises, les prestataires, pour s'assurer qu'il n'y a pas de malfaçons. En cas de malfaçons, les ALE, 15 jours pour corriger les malfaçons, pour qu'on passe la réception provisoire. Mais je pense que le gouvernement est en train de s'organiser. N'oubliez pas que le PDL 145 territoire est un programme initié par le chef de l'État. En principe, c'est le chef de l'État lui-même qui doit inaugurer ces infrastructures. Donc, nous attendons les instructions du chef de l'État pour que, ou qu'il délègue les autorités pour pouvoir couper les rubans symboliques. Mais ce que je peux confirmer, que la décision du gouvernement est que, notamment pour les écoles, qu'à la rentrée de septembre ici, des écoles déjà réceptionnées, que les enfants occupent déjà ces écoles.
Vous venez de changer avec la population de Chilenge par rapport à la destruction du bâtiment, donc le bureau du territoire construit en briques cuites. Comment expliquez-vous que de toutes les agences qui ont gagné le marché auprès de BCECO, il n'y a que Trabajec qui utilise les matériaux non acceptés par la population?
Vous l'avez suivi, il y a une main noire. Vous savez que le PDL 145 territoire, c'est un programme qui a tellement de succès que tout le monde s'oppose à ce que ce programme soit une réussite. Mais malgré ça, nous allons nous battre pour que ça soit une réussite. Nous avons avec l'aide des honorables, des notables de Chilenge, qui j'ai dit merci beaucoup. Nous avons reçu du maître d'ouvrage, qui est le gouvernement, les spécifications techniques. Comme spécification technique, je ne m'arrêterai que qu'aux briques. Il nous a été recommandé d'utiliser soit les blocs ciment, soit les matériaux locaux de qualité. Et les briques cuites font partie des matériaux locaux de qualité. Vous avez vu ces briques-là? Je ne pense pas que les gens qui utilisaient des marteaux pour casser ce qui était construit, vous avez vu, les briques sont sorties intactes. L'essentiel est que nous avons pu dialoguer et trouver solution. Nous avons tiré la conclusion comme quoi demain nous allons nous retrouver au bureau de Besseco avec les représentants de la société civile, les chefs coutumiers et de l'administration pour qu'on lève l'option pour aller de l'avant. L'objectif pour tout le monde, ce chantier doit démarrer. Quels que soient les matériaux, que ce soit les briques cuites ou les blocs ciment, il faut que ce soit les matériaux de qualité.
Nous avons appris que l'IGF était aussi à Tshilenge pour contrôler l'état d'avancement et d'exécution des travaux financés par Besseco. Est-ce que vous vous reprochez de quelque chose?
D'abord, nous sommes engagés à promouvoir la transparence et la redevabilité. La transparence signifie que nous publions tout. Aujourd'hui, je vous fais part de l'évolution du projet. Je vous ai amené visiter le projet, toutes les infrastructures. Donc, ça signifie que si le contrôle est régulier, il n'y a pas de problème. Vous savez, la loi protège et le contrôleur et le contrôleur. Si l'IGF estime qu'il est allé visiter, bon, moi, je n'ai pas de problème. J'attends les rapports.
Merci beaucoup, monsieur le DG. Je vous en prie. Et c'était notre invité, le directeur général du bureau central de coordination Besseco, Jamabi Mounoumba, s'entretenait en Boujimaï avec Esther Ndalafina. Fin de ce journal qui a été coordonné par Blaise Sindani Kambala et supervisé par Martin Sebudjangwa. Polydor Basunga était à la technique. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales des Radio Okapi.